Maroc, acteur de la déstabilisation au niveau régional, est-ce que nous pouvons considérer aujourd'hui, et notamment depuis la fameuse normalisation, que le Maroc est ou est devenu un acteur de la déstabilisation?
Le Maroc a toujours été un acteur de la déstabilisation de la région et au-delà. Le Maroc n'a pas cessé d'agresser ses voisins depuis très longtemps. Pour rappeler nos auditeurs que l'alliance marocaine avec les Espagnols en 1741 dans la bataille de Mostaganem, 1557 dans la bataille d'Oran, c'était justement pour ne pas permettre à l'Algérie de le conquérir son propre territoire. La guerre des sables était un acte d'agression et qui visait notamment à créer des dissensions au sein de l'État algérien qui a pu recouvrir son indépendance après 7 ans et demi de lutte armée, mais aussi pour donner des messages aux voisins de l'Algérie et la Mauritanie et pour essayer de créer les conditions lui permettant d'exécuter son plan du Grand Maroc, notamment par l'occupation de presque milliers de kilomètres de notre patrie, la non-reconnaissance de la Mauritanie, mais aussi de se préparer pour une éventuelle occupation du Sahara occidental. Cette déstabilisation, ce n'était pas seulement le Maghreb, c'est au-delà.
Au-delà du Maghreb.
Il faut nous rappeler son rôle dans l'assassinat de Lumumba, son rôle aussi dans les actions militaires françaises au Chabat, Chabat de 77. C'est une stratégie d'action qui vise à créer des éléments de la déstabilisation dans notre région, de servir les intérêts d'acteurs internationaux.
Servir les intérêts d'acteurs internationaux, mais quel intérêt pour le Maroc de déstabiliser la région? Que gagnerait le Maroc de cette déstabilisation?
Le Maroc a une culture expansionniste. Ce même royaume, de par sa culture politique, a toujours été au service des puissances régionales ou internationales. J'ai donné le cas de ses alliances avec l'Espagne, mais aussi il faut dire que c'est même ces alliances affichées, avérées, annoncées avec le projet occidental pendant la guerre froide. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement le projet occidental, mais plutôt le projet du sionisme mondial. Cette officialisation de la normalisation de ses relations avec l'antisioniste confirme essentiellement moins de choses. La première, c'est la volonté du Maroc d'être un facilitateur des normalisations arabes avec l'antisioniste, mais aussi confirmer son rôle déstabilisateur au Maghreb et au-delà. Il faut dire que le sionisme international dans son projet vise aussi la reconfiguration géopolitique du monde arabe et au-delà de Moyen-Orient et la zone allant de Dakar jusqu'à l'Atlantique pour notamment créer des situations de crise ne permettant pas aux États d'émerger ou de continuer à soutenir la question palestinienne.
Alors, est-ce que justement le fait que le Maroc ait cette mission, ce rôle de sous-traitant avec donc l'entité sioniste, de voir la situation de déstabilisation au niveau de notre région être un peu plus compliquée?
Le Maroc essaie toujours, dans ses projets de servitude stratégique, de contribuer dans des schémas de déstabilisation de pays par un. Donc, je parle de la France ou des États-Unis. Dans le projet à venir, ça va être aussi l'entité sioniste. Au Sahel, le Maroc n'accepte toujours pas un rôle pivotal de l'Algérie. On a vu en 2012, avec les différentes approches d'apaisement politique après le coup d'État du 22 mars 2012, vouloir pratiquement torpiller toutes les initiatives visant à créer des consensus entre les différentes communautés maliennes. La réussite de notre pays dans le parrainage de l'accord d'Alger, vouloir aussi s'inscrire dans une double logique pour essayer de créer des désengagements de quelques acteurs, mais aussi de faire aboutir le projet français de militarisation des choix et des alternatives pour la résolution des problèmes en Mali et au-delà.
Merci à vous, Mohamed Al-Kour.
Merci, Mohamed.
Rendez-vous demain pour le second numéro. L'on évoquera la servitude stratégique du Maroc. Merci à vous, Mohamed Al-Kour.
Merci, Mohamed.